OK, ce soir, on continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus au livre de Job. Alors, comme on le fait à chacun des livres, la première partie est toujours faite de la même façon. On regarde toujours l'arrière-plan du livre, son but principal, le plan du livre, les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre et les personnages clés, les versets clés. Les leçons pour le peuple de Dieu d'alors, au moment que ça a été écrit, à l'époque de Job, et les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui avec le livre de Job? Et aussi, on va regarder la place et la présence de Jésus-Christ à l'intérieur du livre de Job. Alors, on rentre dans une nouvelle section des livres de l'Ancien Testament. Alors, on sait qu'ils sont comme groupés. On arrive dans la section qu'on appelle les livres poétiques. Les livres poétiques, il y a 5 livres qui rentrent dans cette section-là, et c'est Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Alors, c'est important de voir qu'on change parce que chaque groupe de livres porte un nom. Traditionnellement, ça a toujours été appelé les livres poétiques. Alors, on va faire une introduction aux livres poétiques. Alors, cette section de l'Ancien Testament est composée de 5 livres, comme on vient de le mentionner. 4 d'entre eux sont écrits en poésie. Job, il y a la moitié du livre qui est écrit en poésie. Les psaumes, les proverbes et le cantique des cantiques. Le livre de l'Ecclésiaste est écrit surtout en prose, mais avec un long poème à la fin du livre. Ces livres sont différents du reste des livres de l'Ancien Testament, parce qu'ils ne traitent pas de la vie du peuple d'Israël à un moment précis de leur histoire. Ils sont plutôt un reflet de la vie du peuple de Dieu dans sa relation avec Dieu d'une façon générale. La poésie hébraïque n'est pas toujours facile à distinguer de la prose. La prose est une écriture qui reproduit la manière dont nous parlons normalement. En plus d'être la parole de Dieu, l'Ancien Testament est aussi une littérature écrite soigneusement. Aussi, la prose peut être aussi magnifique que la poésie. Nous retrouvons de la poésie dans d'autres livres de l'Ancien Testament, par exemple le Cantique de Moïse dans l'Exode, le Cantique de Déborah dans le livre des Juges, et plusieurs autres passages des livres prophétiques. Les livres poétiques, ou souvent on les appelle aussi de la sagesse, traitent de questions qui affectent les êtres humains de partout et de toutes les époques. La souffrance, la mort, ce qui rend une vie bonne, la connaissance pour bien vivre. La poésie a ceci de particulier, qu'elle a l'habileté d'exprimer les sentiments profonds et les pensées d'une manière efficace et magnifique. Pour cette raison, la poésie est l'instrument parfait pour les questions de sagesse. Dans le monde occidental, nous nous attendons généralement, sauf exception, à une poésie rimée et rythmée à une cadence définie. La poésie hébraïque s'en tient plutôt à un parallélisme de pensée, qu'un assemblage phonétique de mots. Une idée est présente sous une forme, reprise ensuite sous une autre forme, et ceci de 3 manières différentes. Juste pour dire, parce que nous, on est habitués à calculer, disons, quand on fait de la poésie normale, normalement, on calcule les pieds, tu sais, chaque syllabe est un pied, et quand on lit un chant, alors, on est habitué de lire de la poésie de cette façon-là, ça finit par tel mot, puis ça finit par, disons, une sonorité « et », l'autre mot, il finit par une sonorité « et ». Alors, on est habitué à ça. Mais ça, c'est occidental. Oriental, la poésie, c'est autre chose. C'est ce que je veux vous faire prendre conscience. Alors, la poésie hébraïque, il y a 3 manières différentes de l'exprimer. Il y a celle qu'on appelle le parallélisme synonyme. Dans ce genre de poésie, la seconde moitié du verset répète le contenu de la première moitié, mais avec des mots différents. On prend un exemple dans le psaume 2, verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. Voyez-vous, ça reprend la même idée, mais ça la redit d'une autre façon. Le psaume 140, verset 2, ça dit « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. » Voyez-vous, c'est presque la même idée, mais avec des mots différents. Alors, eux autres, dans la poésie hébraïque, ça fonctionne de cette façon-là. Alors, la parallélisme de synonymes, on vient d'en voir deux exemples. Il y a aussi celle qu'on appelle le parallélisme d'antithèse. Dans cet arrangement poétique, une pensée est émise dans le premier vers, pour être opposée en antithèse au second vers comme suit. Alors l'autre, c'était, tu reprenais la même idée avec des mots différents. Celle, c'est antithèse, autrement dit, tu dis le contraire. Dans le premier, tu dis quelque chose, dans le deuxième, tu dis le contraire. Alors, un exemple, dans le psaume 34, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. » Voyez-vous, il y a un qui est privé, puis l'autre, il ne souffre pas d'aucun bien. Alors, c'est vraiment un contraire. C'est utilisé couramment dans ces livres-là. Dans Proverbe 12, par exemple, un autre exemple de parallélisme d'antithèse, « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Alors, c'est toujours ce jeu-là d'antithèse. Il y en a un qui est synonyme, l'autre c'est antithèse. Et il y en a un troisième, c'est celle qu'on appelle le parallélisme synthétique. Dans ce type de poème, une pensée est émise, puis développée dans les lignes suivantes, chaque ligne s'appuyant sur la première comme suit, comme dans le Proverbe chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Proverbe 9, versets 1 à 2. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé la table. C'est sûr que si vous voulez comprendre la poésie biblique, là, c'est juste, on fait juste comme effleurer le sujet. Il y a des livres complets qui ont été écrits juste sur ce sujet-là, la poésie telle qu'exprimée dans les Écritures et telle qu'exprimée par la langue hébreu. Très important parce que si on comprend ça, on fait la distinction avec la poésie occidentale et c'est important de comprendre. On a souvent fait remarquer que l'enseignement de ces 5 livres est progressif. Comme l'a dit quelqu'un, spirituellement, ces livres présentent les expériences du cœur renouvelé depuis l'heure même où son état misérable est découvert jusqu'à l'heure où Christ devient tout en tous. Alors, juste pour regarder un peu l'idée principale de chacun des 5 livres, le sujet de chacun des livres, peut se résumer à peu près comme suit. Job est vraiment le problème de la souffrance. Moi, je l'ai fait à Rouyn-Noranda, d'un couvert à l'autre, de tout le livre, je l'ai prêché. C'est un livre qui est très intéressant à prêcher, parce qu'il nous met en contact avec des choses qu'on vit quotidiennement. Tout le monde souffre. Et c'est important de faire la différence en pourquoi on souffre, parce que ici, les amis de Job pensaient que « Ah, ben c'est parce que tu as péché que tu es souffert, que Dieu te punit. » Et là, Dieu veut nous introduire l'idée que souvent, il peut permettre dans nos vies de la souffrance qui n'est pas causée nécessairement par une vie de péché qu'on mène. C'est une épreuve qui nous fait traverser. Satan s'était présenté devant Dieu. « Ah, ben là, on sait bien, tu le bénis. Et puis c'est pour ça qu'il te suit. Maintenant, rends-les malades. Coupe-y ses biens. Enlève-y sa richesse. Tu vas voir, il va te maudire en face. » Le Seigneur a permis que Job connaissent la souffrance dont ils ne comprenaient pas pourquoi ils vivaient ça. Mais si nous, on regarde nos vies, y a-t-il quelque chose de semblable à ça qui se produit dans nos vies? Vraiment beaucoup. Psaume, c'est vraiment le livre des psaumes. L'idée principale, c'est la façon de prier. Dans le livre des Proverbes, c'est vraiment la conduite du croyant. Si on veut savoir comment se conduire dans la vie, lisons le livre des Proverbes, maintes fois, il y a une multitude de leçons de vie à l'intérieur de ça. Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment le livre qui est centré sur l'idée principale de la folie d'oublier Dieu. Et dans le Cantique des Cantiques, c'est vraiment l'art de l'adoration. Alors, quand on regarde les principaux éléments du livre de Job, on regarde son arrière-plan, son auteur est inconnu. Le fait que son nom ne soit mentionné ni dans le livre lui-même, ni ailleurs dans la Bible, signifie que son identité ne peut être établie avec une grande certitude. Donc, l'important est l'assurance que Dieu est son auteur divin. Le livre de Job est parfaitement à sa place dans le canon des Écritures. La date et le contexte historique du livre. Le livre de Job a fait l'objet d'innombrables discussions. Beaucoup de spécialistes de la Bible le considèrent comme le livre biblique le plus ancien. Voici les facteurs qui militent en faveur de cette hypothèse, comme de quoi le livre de Job serait le plus ancien. Premièrement, il y a la longévité de Job. Il a vécu 140 ans après les expériences décrites dans le livre de Job. On peut le lire au verset 16 du chapitre 42. Ce qui le place à l'époque des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Donc, à quelque part, c'est un livre qui a été écrit dans la période des patriarches, selon les spécialistes. Job exerce la fonction de souverain sacrificateur de sa famille à la manière d'Abraham, chose qui était impossible après l'Exode. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte qu'on peut juger ça. Parce qu'il disait que ses enfants faisaient un party avec les filles, avec ses sœurs, qu'il faisait un sacrifice. Et c'est juste à l'époque des patriarches qu'on peut voir ça. La troisième facteur, c'est le silence absolu des amis de Job quant aux miracles qui accompagnèrent l'Exode et la migration vers Canaan. Si ça a été après, il n'aurait parlé. Or, ces événements prodigieux sont souvent rappelés pour illustrer la manière dont Dieu délivre ses amis et détruit ses ennemis. Un autre facteur, c'est l'absence de toute référence aux fêtes, aux cérémonies, aux coutumes, aux sabbats ou aux sacerdoces israélites qui ont été tous institués au Mont Sinaï. Le Mont Sinaï s'est rendu dans l'Exode. Fait que ça serait écrit avant l'Exode, donc à l'époque des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ces considérations situeraient l'histoire de Job à l'époque de Jacob ou peu après. Le but principal du livre de Job traite du problème de la souffrance humaine. Le livre conclut que les croyants, lorsqu'ils font face à la souffrance, n'ont pas besoin de connaître ses motifs, mais doivent plutôt exercer de la foi et de la confiance en Dieu. Le livre relate l'histoire d'un homme qui n'était pas conscient des conversations qui avaient lieu dans le ciel et qui le concernaient. Ces conversations étaient entre Dieu et Satan. L'issue de ces conversations l'amène à expérimenter une grande souffrance. Son expérience douloureuse nous incite à réfléchir sur la souffrance et la justice. Les conversations entre Job et ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar et Élihu, montrent avec éloquence les limites de la sagesse humaine. On sait que toute la gang, quand ils ont essayé de convaincre Job, soit parce qu'il avait péché, ils ont tous passé à côté de la traque, comme on dit. Ils ont tous mal interprété les événements. Alors, ça nous montre les limites de la sagesse humaine. Alors, ce que le livre de Job établit solidement, c'est que Dieu est souverain sur ses créatures et sur la nature. Dieu dépasse grandement notre entendement et nos expériences. Notre sagesse ne peut jamais découvrir pleinement ses voies et ses plans. Dieu a créé toutes choses. Il est au contrôle absolu de tout l'univers. Plus souvent qu'autrement, nous ne pouvons voir ni comprendre ce qui se passe en arrière-scène. Cependant, Dieu veut que nous fassions confiance en sa sagesse, en sa bonté et en ses plans. À la toute fin du livre, Job vient à considérer avec justesse que son Dieu est bon, saint, juste et rempli de compassion. Ce Dieu l'aime tendrement et prend un soin jaloux de lui. Quelqu'un a dit avec raison, derrière toute la souffrance du croyant se cache un grand dessein de Dieu. Et par-delà, c'est une suite de glorieux enrichissements. L'autre, je vais vous laisser le plan, je vais vous laisser l'utiliser. Si jamais vous lisez le livre de Job, ça peut être très utile. Reprenez le plan, regardez comment le livre est divisé. C'est très intéressant. Alors, je vous laisse regarder ça par vous-même lorsque vous arriverez là. Et on va regarder maintenant les thèmes majeurs qu'il y a à l'intérieur du livre. Bien entendu, dans le livre de Job, on parle de sagesse divine. Même si Dieu nous a révélé sa sagesse en relation avec Jésus et son œuvre de rédemption, il ne nous a pas tout révélé. La sagesse divine s'étend infiniment au-delà de la capacité humaine à comprendre ou à son imagination. La sagesse de Dieu peut être vue dans ses œuvres de création. Une mesure de mystère demeure sur ses œuvres de providence. Les œuvres de providence, on a déjà parlé de la providence, on a déjà fait toute une série de leçons ici sur la providence. La providence, c'est les circonstances que Dieu permet qu'on vive de tous les jours, dans toute notre vie, pour chacun des individus et même les nations. Autrement dit, il reste toujours un peu de mystère à l'intérieur de ça. On a beau essayer de comprendre pourquoi Dieu nous envoie ça, Dieu ne nous l'explique pas tout. Et même, je dirais, rarement. La puissance divine, maintenant, un autre thème. La puissance créatrice de Dieu ne s'est pas arrêtée au moment de la création. Dieu est encore engagé dans la direction de ce monde, dans les soins qu'il lui porte et en contrôlant les puissances du mal. Autre thème du livre de Job, la souffrance humaine. Le livre de Job ne répond pas à la question du pourquoi de la souffrance, pourquoi la souffrance existe. Le livre nous montre plutôt qu'il faut avoir confiance en la sagesse, la bonté, la puissance de Dieu pour mieux nous réconforter plutôt qu'obtenir des réponses à toutes nos questions. N'est-ce pas qu'on en pose des questions? Est-ce qu'on a toutes les réponses qu'on aimerait? Non, on ne les a pas. Il faut faire confiance. L'autre, c'est la rétribution. Histoire pourvoit à une importante correction concernant notre idée fondamentale de la rétribution. Dans le livre du Deutéronome, des Proverbes et dans plusieurs psaumes, et dans d'autres sections de l'Ancien Testament. L'enseignement de la rétribution nous enseigne que si nous péchons, alors nous souffrirons. Les amis de Job argumentent en ce sens avec Job. Si tu souffres, c'est alors que tu as péché. Le livre de Job enseigne que la réalité est plus complexe que cela et que la souffrance n'est pas toujours envoyée pour rétribuer le péché. Voyez-vous, dans le cas ici, quand on regarde le livre dans l'extension ensemble, c'était pour le mettre à l'épreuve. Et il est sorti victorieux de l'épreuve. Au début, il y avait la façon de réagir parfaite. Puis à un moment donné, ça s'est gâté en cours de route. Puis à la fin, je suis justement rendu là dans mes lectures quotidiennes. Je trouvais ça tellement extraordinaire, les questions, à partir du chapitre 39, quand le Seigneur a voulu le remettre à sa place, comment il a procédé. Il n'a pas fait de reproches. Il a juste posé des questions. Où étais-tu quand j'ai fait ci? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu comprends de telle affaire? Il n'arrête pas, il pose une série presque infinie de questions, une série très, très, très importante de questions. Et là, Job, quand Dieu a fini son plaidoyer, là, il a reconnu que son raisonnement n'était pas fort, comme on dit. Alors, les personnages clés, bien entendu, du côté céleste, il y a Dieu et Satan, parce qu'à cette époque-là, Satan avait encore accès au ciel. Du côté terrestre, bien là, on a Job, Éliphaz, Bildad, Sophar et Élihu. Les versets clés. Job, chapitre 1, versets 20 et 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Là, il avait agi parfaitement. C'est de même qu'on devrait toujours agir. Job, chapitre 19, versets 25 et 26, nous dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Donc, il croyait à la résurrection. Job, chapitre 23, verset 10. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » C'est un peu ce qui est arrivé. Job, chapitre 42, verset 5 et 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après que Dieu ait eu posé toutes ces questions, là, il a pris conscience de qui était, puis que ses questionnements n'étaient pas corrects, et là, il se repent devant Dieu. Alors, les leçons spirituelles pour le peuple de Dieu de cette époque-là, d'alors. Alors, Job n'est pas identifié comme un Israélite dans l'histoire. Cependant, Dieu se réfère à lui comme « mon serviteur Job » dans le verset 8 du chapitre 1. Job représente tous les membres du peuple de Dieu, tous ceux qui sont ses serviteurs. La souffrance humaine est universelle et les personnes souffrant veulent des réponses à leurs questions. Job a réalisé qu'il ne demandait pas une question appropriée. Ce n'était pas juste une question de souffrance ou de justice, mais c'était plutôt une question de confiance en Dieu. Ça se peut-tu que quand on traverse les grosses souffrances, on a à peu près la même façon de réagir? On est porté à dire « Coudon Dieu, tu m'as-tu oublié? Pourquoi tu m'as oublié? » On manque la confiance, c'est une question de confiance. Pour aujourd'hui, les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas expliquer exhaustivement et complètement le problème du mal. Cependant, Dieu demande notre foi et notre confiance. Pour avoir confiance en Dieu, il faut bien sûr le connaître comme Job le connaissait. Nous avons besoin d'une rencontre personnelle avec notre sage, puissant et bon Dieu qui rencontra Job dans la tempête. Mais nous n'avons pas besoin de tempête pour rencontrer notre Dieu. Nous pouvons maintenant le rencontrer dans la personne de Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. Et l'autre, la place et la présence de Jésus-Christ, Jésus a expérimenté la souffrance et peut sympathiser avec notre souffrance. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus, le serviteur juste et innocent, a souffert à notre place et a payé la punition due au péché de ses élus. Ce même Jésus nous invite à le rencontrer et à avoir des relations personnelles avec lui et à se reposer en lui. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, ça nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Placer sa foi en Jésus ne nous donne pas toutes les réponses à nos doutes et à nos questions. Cependant, lui faire confiance nous apporte la vie abondante, la paix véritable et profonde, et du réconfort dans les temps de souffrance. Les applications du texte. Le livre de Job parle de l'expérience physique et spirituelle d'un croyant d'une époque très reculée, dont la foi fut éprouvée au maximum. Son but principal n'est pas de raconter l'histoire d'Israël, ni de faire connaître des prophéties messianiques, ni de montrer les étapes nécessaires du salut, ni de dévoiler la mission de l'Église. Le message sous-jacent du livre est celui-ci. Ce que Dieu a déterminé, c'est ce qu'il fait. Par conséquent, nous pouvons lui faire confiance sans réserve. Dieu sait toujours ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Notre devoir est de marcher par la foi et non par la vue. Les souffrances sont le résultat du péché personnel, du péché d'autrui ou du péché de la race humaine. Le Seigneur se sert de la souffrance de ses enfants pour les corriger et pour les éduquer. Il utilise parfois la souffrance pour des raisons que nous ne connaîtrons jamais, pour manifester sa gloire devant les incroyants, devant des amis, devant ses ennemis. Les enfants de Dieu sont, par sa puissance, gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous pouvons être attristés par diverses épreuves afin que l'authenticité de notre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Rien n'oblige Dieu à nous expliquer ses agissements. Tel est le message du livre de Job. Que notre grand Dieu, seul sage, soit éternellement béni. Amen.